Hey, c'est déjà l'épisode numéro 9 du podcast Pourquoi tu cours? Elissa Legault, salut!
Salut, ça va bien?
Ça va bien? Comment tu vas?
Ça va bien, on a eu une petite pause de... d'été.
D'enregistrement, en fait, là, parce que vous l'écoutez à chaque deux semaines, mais nous, dans le réel, on a eu une petite pause de plusieurs semaines. As-tu couru pas mal dans notre pause estivale?
Ben moi, en fait, j'ai fait mon demi-Ironman, en fait, en juillet, donc ça s'est bien passé. Puis ensuite, j'ai fait une petite pause de triathlon parce que j'étais en Europe, fait que j'ai juste continué à courir.
T'es allée aux Jeux Olympiques?
Pour ma sœur, oui.
Pour ta sœur. Ouais. Explique-nous, qu'est-ce que tu faisais là-bas?
J'étais spectatrice.
Okay,
ma sœur a participé au triathlon. Dans le fond, c'est la représentante canadienne.
Wow!
Ouais. Fait que c'est une expérience de fou. On est arrivé 2h30 d'avance, le départ, pour être sur la première ligne. Parce qu'on s'entend que le triathlon, c'est un... Il n'y a pas beaucoup de sports que tu peux...
Est-ce que c'est eux qui étaient appelés à nager dans la Seine?
Oui.
Puis là, finalement, l'eau était pas assez belle. Puis...
Ben, ça a eu lieu. C'est juste que l'épreuve des gars a été reportée d'une journée.
OK.
Donc, nous, en fait, on a vu l'épreuve des femmes que ma soeur était dedans. Okay. Puis ensuite, ils ont fait l'épreuve des hommes directement après. C'était censé être deux jours différents.
OK. C'est bien reçu comment par les athlètes, cette nouvelle-là, de faire comme l'endroit où on t'envoie nager? On a mis des milliards pour la ranger, mais c'est pas prête.
Ben, en fait, les athlètes, de ce qu'on entendait, c'était qu'ils sont habitués à pire des fois. Là.
OK.
Fait que pour eux, je pense que ça les inquiétait pas trop. Il y avait l'aspect, par contre, qu'il y avait beaucoup, beaucoup de courant dans la Seine. Là, on a vu des vidéos sur Instagram. Là, quand ils revenaient face au courant, ils faisaient du surplace. Puis c'est des athlètes performants. Là,
ben oui,
ils avancent
ça.
Très rapidement.
Oh, ouais.
Là, donc, c'est pour dire que le courant était vraiment très fort.
Puis post-jeu, ta soeur a vécu ça comment, mettons, là, quand tu lui parles après?
Oui. Ben, elle est assez positive. Elle veut refaire un cycle olympique aussi. Donc, je pense que ça la motive.
Okay.
Elle a beaucoup appris aussi, là, il y a eu une chute à vélo en avant d'elle, fait que ça l'a comme séparé du peloton dans lequel elle était.
Okay.
Fait que c'est sûr que je pense qu'elle veut, elle va comme avoir une petite flamme de comme vouloir faire mieux pour les prochains. Puis en même temps, eux en triathlon, c'est que leur finale de championnat du monde, si je peux dire, est à l'automne. Fait que c'est comme pas fini la saison.
OK. Okay.
Donc c'est elle continue, puis elle a eu quelques journées, une semaine plus tranquille, si je peux dire, d'entraînement, mais là, elle est repartie pour de bon. Là.
Puis globalement, la ville a l'air de quoi, mettons, pendant les Jeux? Est-ce qu'il y a Paris, puis il y a les Jeux, ou c'est les Jeux partout?
Non, honnêtement, ben en fait, moi je me rappelais pas, j'étais allée à Paris, ça fait plusieurs années, mais la marraine à ma soeur qui était avec nous, elle a une habitude de Paris, puis elle disait, il n'y a pas une auto qui se promène, tout est super tranquille, les Parisiens sont sortis de la ville, fait que c'était super tranquille.
Les Parisiens sont partis?
Oui, il y avait beaucoup de Parisiens qui sortaient. Je pense qu'il y en a beaucoup qui louaient leur appartement pour faire de l'argent. Il y en a beaucoup qui voulaient pas être pris dans une masse de personnes. Donc, au niveau en dehors, mettons, des installations olympiques, c'était très tranquille. Mais sur la place, là, mettons, en triathlon, tu avais des spectateurs sur les statues. Tu avais une masse de personnes qui encourageaient. Donc, l'ambiance était folle.
Ça devait être écœurant, pour vrai.
Puis,
tu sais, c'est tellement une ville spéciale, Paris.
Oui.
Puis, on les a critiqués beaucoup, je pense. Mais je suis content de parler à quelqu'un qui était là pour voir sur place la ville a l'air de quoi. D'avoir l'ambiance vraiment, vraiment spéciale. As-tu eu accès au village canadien?
Oui, je suis allée après la course à Manson, on est allé là. Puis,
okay. C'est comment là-bas quand t'arrives?
Ben honnêtement, je me retourne puis il y avait une fille avec sa médaille d'argent dans le cou. Fait que ça surprend puis
c'est
tu vois
sûr.
Une médaille olympique en vrai. Fait que ça c'est cool. Puis après, c'est juste très. On dirait que c'est à l'image du Canada, c'est très accueillant.
Ouais, c'est ça.
T'sais, c'est super. On dirait que c'est la maison du Canada aux Jeux Olympiques, mais ça reste très. Pas familial, mais friendly, si je peux dire. Fait que c'était cool. Puis il y avait la boutique Lululemon là, que tu pouvais aller magasiner. Il y avait la nourriture. Puis les athlètes pouvaient venir là puis rencontrer leur famille.
As-tu été voir d'autres épreuves à part le triathlon?
Non, malheureusement, j'ai été là 36 heures. Donc,
c'est in and out. Là.
Oui, c'est ça. Moi, je suis allée personnellement à Londres avant, mais on est resté 36 heures sur Paris. Puis on a vu la course des femmes, des hommes. Puis on partait le lendemain.
Quelle belle expérience.
Oui,
permettez-moi de remercier les gens qui nous aident à faire ce podcast. Pourquoi tu cours? Les équipements audiovisuels nous proviennent de chez nos amis de chez Best Buy. Les micros, caméras, tout ça. Vous voulez vous partir en photo, en podcast, en peu importe, ils ont de tout là-bas vraiment pour ça. C'est assez simple. Simplement vous rendre sur leur site web ou directement en magasin. Et le mobilier du studio de la commission athlétique est fourni par nos amis de JC Perrault que je salue. Et eux embrassent beaucoup la performance et le développement des jeunes à travers justement le sport et la persévérance scolaire. Ben, en louant des glaces au complexe JC Perrault à Saint-Roch, la Chigan, vous aider justement à contribuer à l'OBNL qui met des sous dans faire la promotion, de mettre des gens le plus possible dans le sport, les faire bouger. Je trouve ça beau, puis je trouve ça important. De plus en plus de monde autour de nous, je pense, en sont conscients présentement. Puis tu sais, puis j'ai vu, puis si jamais de lancer la pierre à personne, là, mais j'ai J'ai vu des trucs pendant les vacances où tu fais comme... On dirait qu'on est à deux extrêmes. On dirait qu'il y a comme des gens comme vraiment, vraiment, vraiment en forme, puis des gens vraiment, vraiment à l'autre bout du spectre, ou à peu près. Puis, tu sais, je vais... Fais à ta tête, c'est à toi les oreilles, là, comme disait mon grand-père, mais on s'en va vers convaincre de plus en plus de gens de bouger, de l'importance des saines habitudes de vie, sans être nécessairement Michael Phelps, là, ou un athlète de très, très haut niveau, juste d'en faire un minimum. Puis le marathon est excellent pour ça, justement, pour en faire la promotion. C'est le 100 km, le 1 km avec les enfants. Ça va vraiment être un super bel événement. Ton chum fait son premier marathon?
Oui, oui, il s'est entraîné fort. Ça fait longtemps qu'il a décidé qu'il voulait faire son premier marathon à Montréal. Presque un an d'avance, en fait. Là. Fait que, ça fait longtemps qu'il se prépare. Fait que je suis fière de lui juste pour tout. Il a pas manqué un entraînement.
Très bon.
Sauf récemment parce qu'on pense qu'il y a eu la COVID en venant d'Europe. Là, mais en tout cas, sinon, il n'y en avait pas manqué un.
On va parler de préparation mentale aujourd'hui et de performance mentale. Présente-nous tout de suite l'invité qu'on va recevoir dans les prochaines minutes parce que tu as eu appel à, t'as fait appel à ses services.
Oui, Camille Charbonneau, en fait, j'ai commencé à travailler avec elle, ça fait déjà plusieurs années, puis elle m'avait beaucoup aidée dans mes débuts parce que, comme on aime ça dire, les athlètes sont très perfectionnistes, puis Camille, tu sais, on en parle beaucoup justement que c'est un trait de personnalité qu'on voit beaucoup chez les athlètes. Donc, d'apprendre à travailler ton perfectionnisme, puis d'apprécier aussi que c'est pas tout noir et blanc, puis moi, elle m'avait beaucoup aidé justement à prendre conscience de plusieurs affaires, puis honnêtement, j'invite vraiment les gens à travailler avec quelqu'un au niveau mental, tu sais, t'as un coach pour le physique, t'as un nutritionniste, tu sais, t'as plein de personnes qui t'entourent, mais je pense qu'on oublie des fois le mental, t'sais, tout dépendant de l'épreuve, mais même si c'est un 5 km, t'es dans ta tête pendant 5 km, puis des fois, c'est important d'avoir des outils repères, pour t'aider à traverser, parce que la course à vie, c'est un, ben, peu importe le sport que tu fais, c'est très difficile.
La tête est souvent sollicitée.
Ouais.
Plus qu'on le pense, ça va être super intéressant. C'est notre invité cette semaine, Camille Charbonneau.
Pourquoi tu cours? Voici Max Lalonde et Elissa Legault, présentés par le Marathon Bénévent de Montréal.
Camille Charbonneau, salut!
Salut!
Merci d'être là aujourd'hui avec nous autres.
Merci à toi.
Première question qu'on pose à tout le monde, tout le temps. Pourquoi toi, tu cours?
C'est une bonne question, puis je pense que mes raisons ont changé un peu les dernières années. J'ai commencé en 2018. En fait, je sais que tu parlais avec Laurent, ça fait deux épisodes.
Lawrence.
Parce que je travaille comme consultante en performance mentale, j'avais l'opportunité de... assister dans une retraite de fin de semaine avec Lululemon, avec des ambassadeurs de club de course, puis Lawrence était là, puis anyway, c'était la première fois que j'ai commencé de courir comme sport, puis je dis comme sport parce que moi, je m'identifiais comme athlète, j'ai joué au rugby pendant 10 ans, basket, puis c'est sûr que tu cours.
Quand oui, tu cours. Donc, mais c'est pas l'activité première.
Exact.
Ouais, c'est ça.
Donc, dans cette fin de semaine-là, j'étais vraiment peur de courir avec tous les ambassadeurs, mais ils étaient très amicables, puis gentils, puis supportifs, puis on avait fait des 5 km, puis même, je pense, des 10 km, puis c'était vraiment du fun. Puis c'était ce week-end-là que j'ai dit « Ah, ben peut-être c'est le fun de juste courir. » C'est sûr qu'on était à Mont-Tremblant, dans la forêt, c'était nice. Mais oui, c'est dans 2018 que j'ai commencé, puis j'ai rencontré plein de gens de ce week-end-là, puis j'ai créé plein d'amis, puis une de les filles m'a challengé de faire un demi-marathon. Donc, cette semaine,
on est venu piquer l'athlète.
Oui, exact. Donc là, le fin de semaine, c'était en octobre, puis elle m'a dit, je te challenge de faire le demi, le printemps, c'est quoi? C'est en avril, je pense.
Scotiabank.
Donc là, ça donne combien de mois? Comme...
7 peut-être?
7, ouais. Ouais.
Anyway, j'ai dit challenge accepted.
Wow.
Donc j'ai embarqué dedans, mais c'était toujours on the side. Ce temps-là, j'étais dans le bodybuilding, puis là j'ai switché à haltérophilie.
Okay.
Donc pour moi, le cours c'était toujours on the side. Puis moi j'ai dit, je vais être jamais un runner. C'était toujours juste un challenge. Donc là, j'avais suivi un programme pour faire le demi. J'avais fait le demi. J'ai bien exécuté ça, puis j'ai dit, c'est la dernière fois que je fais un demi.
Okay.
Parce que courir 2 heures, là, ça, c'est pas mon affaire. Moi, je veux prendre 3 heures dans le gym, cool. Peut-être si je cours vite comme Elissa, ça va prendre moins de temps. Mais dans 2018, j'ai dit, OK, le demi, c'est cool, mais je vais juste courir pour l'aspect social, pour rencontrer des gens. Puis j'ai commencé à courir avec Mile & Miles en 2018, on the side encore. Puis fast forward, j'étais enceinte, ça fait 2 ans. Là, ma fille est 20 mois.
Oui, ouais. Oui.
Puis j'avais essayé de recommencer la haltérophilie, mais c'était juste trop difficile.
Ouais.
Puis pour moi, la course est plus facile. C'est moins de temps pour moi d'entraîner. C'est plus facile de juste aller prendre mes souliers puis aller courir. Parce que sinon, l'entraînement, d'aller au gym, entraîner 2 heures, venir, c'est comme 3 heures de ma journée. Donc, ce temps-ci, je cours pour mon santé mentale, pour bouger, parce que une grosse partie de mon identité, c'est un athlète de bouger.
Ah oui.
Puis aussi de trouver cette structure que j'ai manqué les dernières 2 années. Parce que je suis vraiment quelqu'un qui aime les objectifs, qui aime les challenges, aime la structure. Puis.
Des enfants, c'est fou ce que ça fait.
Oui.
C'est malade ce que ça vient changer. Là, c'est plus toi qui décides de ton horaire, c'est eux qui font ton horaire. Puis après ça, tu bouges les affaires dedans.
Oui, puis j'avais fait le demi. En 2018, j'ai dit je ne vais jamais faire une demi-marathon, mais finalement, mon ami m'a convaincu de faire une demi à Lac-Brome en juin.
Oh, il est beau Lac-Brome en plus. Ouais.
Il est coûteux, hein?
Oui. Les Lac-Brome, c'est magnifique.
Mais
ouais.
Pour moi, j'ai dit ben, je vais le faire pour le fun, pas de pression.
Ouais.
Pour moi, c'était la première fois que je suis un programme dans 2 ans. Donc, pour moi, c'était juste le fun. Mais c'était encore beaucoup de entraînement, beaucoup de temps. Ouais. Donc là, en ce moment, je suis en train de... Mon programme, c'est pour un 10 km de la Chine en octobre.
Okay.
Ça me va. Puis peut-être, j'espère en l'hiver, okay. je peux avoir plus de temps d'aller au gym parce que pour moi, mon sport, c'est le lifting heavy weights.
Ouais.
Mais
tu travailles en performance mentale avec des athlètes de pas mal de disciplines. Comment on devient coach en performance mentale?
C'est une maîtrise. Moi, j'ai fait ma maîtrise à l'Ottawa. Il y a des programmes à... Je pense que c'est... Est-ce que c'est UDM? Anyway, il y a un programme à McGill, Sports Psychology. C'est une maîtrise. Tout est basé sur le psychologue du sport.
Oui, parce que j'ai du sport.
La différence entre moi et je ne suis pas une psychologue. Je suis pas une psychologue. La différence, c'est que j'ai pas un PhD, j'ai une maîtrise, mais moi, je pense que mon travail est plus fun parce que je suis là avec les athlètes. Je travaille avec les athlètes en université. Je suis là dans leur pratique. Je donne des ateliers, je donne des sessions individuelles. Donc, c'est plus comme hands-on.
Oui.
Donc, il faut une maîtrise. Puis là, quelque chose de nouveau dans notre ordre, c'est qu'il faut que tu dois être certifié.
Okay.
Donc là, ça fait 8 ans que je fais qu'est-ce que je fais. Puis ils m'ont demandé de faire un examen. Anyway, il faut que tout le monde fait l'examen. Tu passes l'examen avec 80%, puis ça, c'est une autre histoire.
C'est une fois, c'est à chaque année.
C'est une fois, puis là, quelque chose nouveau que...
C'est une bonne nouvelle, dans un sens?
C'est une bonne nouvelle, parce que...
Qui est comme un ordre professionnel.
Exact, puis protéger notre titre, parce que les gens, they mix it up with a life coach. I'm not a life coach. Mais c'est parce que les outils que j'enseigne, c'est sûr que... T'es une humaine avant un athlète. C'est sûr que moi, comme coach, I connect the dots.
Ah oui,
si on parle de la confiance puis tout ça, c'est aligné avec ta vie. Si quelque chose arrive hors de ton sport, ça va
affecter. C'est un impact.
Ouais. Mm. Donc, tu peux dire que comme un life coach, tu peux avoir cette certificat online. Là, pour être un consultant certifié en performance mentale, il faut une maîtrise. Une certification comme...
Oui, puis c'est ça, il y a des études là-dedans. Là. Je dis pas, c'est pas juste de partir des stories Instagram en disant « Allô la gang », là. C'est pas... mais je les déteste, mais... non, mais... Puis on fera pas leur procès aujourd'hui, mais c'est parce que c'est important le travail que tu fais. Parce qu'on en a de plus en plus de besoins, parce qu'on dirait que les athlètes l'ont de plus en plus difficile, parce que c'est tough aujourd'hui conjuguer justement l'entraînement, la vie. Là. Puis il y en a qui, même après leur carrière d'athlète, veulent continuer à être en forme. Puis là, après ça, comment tu fais pour, mettons, tu sais, à 40 ans, comment je fais pour être un bon papa, un bon chum, pour rester en forme, pour faire mes activités, pour avoir du fun, pour être performant dans ce que je fais? C'est dur, cette partie-là. Fait que quand tu l'amènes dans la cour des athlètes de haut niveau, ça doit être encore pire. Qu'est-ce qui t'a intéressé à la base, mettons, dans traiter ça, là, ce qui se passe ici?
Bien, quand on parle de les athlètes de niveau haut, ou même beaucoup de les athlètes que je travaille avec, puis moi, I'm included in this, ils sont perfectionnistes.
Mais
c'est
oui.
Soit blanc ou noir. Puis là, c'est... Puis, that's what gets us in the spiral. Parce qu'on a des expectations, oui. C'est dur à gérer des erreurs, quand oui. des choses arrivent que... Like, that we don't prepare for, this is when we get into the problem. So, à la base, c'est de aussi avoir une mindset d'être plus gris, puis, oui. puis non perfectionniste, puis OK, oui, je vais préparer pour ça, mais comme si mon gel marche pas ou si ça commence à être trop humide, ben je vais break down. So, comme, oui. Donc, les athlètes les plus the most successful athletes are resilient
ah oui.
to all this.
And ça
c'est dans la
ça.
Tête.
Ça, est-ce que ça s'apprend à devenir résilient?
Ben, je pense que oui, avec l'expérience, avec le pratique, avec les exercices que j'enseigne mes athlètes, mais aussi comme, je pense que une grosse partie, c'est de l'expérience d'être
ouais.
uncomfortable.
Oh oui.
Oui,
d'embrasser l'inconfort.
Oui, exact. Puis ouais. aussi de prendre des leçons de ces expériences-là. Mm. Sinon, ça, like, it's not going to help you. So, en anglais, on appelle ça un growth mindset.
Oui.
Ça veut dire qu'il n'y a pas, d'échec, c'est juste des expériences.
Ben oui.
D'apprendre puis, de l'expérience, puis de savoir aussi que ça peut juste être utile pour la prochaine compétition,
ouais,
course, etc.
Parce que beaucoup d'athlètes expectent perfect every time.
Tout le temps, ouais.
Tous les entraînements, tous les courses, mais ce n'est pas réaliste. Donc, c'est sûr que like, you shoot yourself in the foot because you're going to get disappointed. So.
Mm. Moi, avant ma blessure à l'automne, j'avais de la misère justement à accepter qu'un entraînement pouvait mal aller parce que dans ma tête, s'il se passait mal, ben j'allais mal
ça
faire en ma prochaine compétition.
Ça, ouais.
Puis j'étais incapable de juste apprécier le processus day by day. Puis en fond, c'est ça, j'ai travaillé avec Camille pendant un bout, puis j'avais beaucoup apprécié justement, on essayait de sortir de ma tête puis de plus observer autour de moi, puis
ouais.
d'accepter un peu, tu sais, juste ce que moi je ressentais versus d'être focusé à, OK, il faut que je cours à 3 minutes 21 du kilomètre.
Ouais. Mais est-ce que tu avais commencé à coacher des athlètes à ce moment-là ou tu étais. OK, c'est ça. Parce que je me demandais, c'est comment pour une coach d'être coachée.
Mais en même temps, je pourrais pas m'auto-coacher parce que j'ai pas cette sagesse-là avec moi-même.
Non,
je suis capable
ça.
De le faire sur quelqu'un, mais sur moi-même, je suis encore trop difficile.
Parce que ça prend un profil comme le tien pour accompagner des athlètes là-dedans. Tu sais, il y a une façon de parler, ils doivent tout être différents, ils doivent tout être avoir une façon de se faire, pas, je vais dire, diagnostiquer différente, mais tu n'échanges pas pareillement avec tout le monde.
Mais mon rôle, c'est d'écouter, puis de to make you reflect deeper.
Ouais.
Parce que tout le monde, on sait les réponses, mais on ne sait pas les questions. Puis mon rôle, c'est de te demander les questions qui te donnent les réponses, puis aussi de donner des outils et stratégies.
Puis je pense que ça doit arriver aussi qu'il y a des gens, tu les fais réfléchir, puis la rencontre d'après, « Ah, Camille, j'ai pensé à ça! »
Là, oui,
ça allait
oui.
bien.
Oui.
C'est pas juste sur comme la rencontre
exact.
Précise. Là.
On essaie de trouver les moments « aha », like « aha moments
ouais, »,
puis
ouais.
ça arrive avec la discussion, avec « to challenge your way of thinking ». Dans le fond, il faut que tu changes ton perspective,
oui.
la façon que tu penses, puis tes « your beliefs ». Parce que si tu crois que les erreurs sont mauvais, puis ça, c'est, like, je peux te donner tous les outils dans le monde, mais si toujours ton perspective puis tes pensées, c'est la même, ça ça fait rien. Donc, mon rôle aussi, c'est de ne pas juger.
Ouais.
Tout le monde a ses propres challenges puis histoires.
Est-ce que les athlètes viennent plus facilement vers les mental performance coach aujourd'hui qu'avant? Parce qu'il y a beaucoup de tabous, tu sais, puis tu vas pas chercher personne dans la mesure où tu promènes pas sérieux avec une pancarte en disant « engagez-moi, il faut que les athlètes t'appellent ». Est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est encore réel aujourd'hui? Moi, j'ai pas besoin de ça, là.
C'est dur, c'est sûr que dans les dernières 8 années, j'ai vu que ça développe, ça change. Ouais. Puis j'aime les Olympiques parce que chaque Olympique, les athlètes parlent plus de leur santé mentale, puis le support au niveau de mindset. Puis pour moi, ça aide parce que quand ça arrive, moi, j'ai plus d'appels.
C'est sûr.
Mais oui, c'est difficile. Je travaille pour moi-même, puis c'est moi qui ben, il faut que je cherche des clients qui ont besoin de moi. Puis c'est sûr qu'il y a des athlètes ou des coachs qui ont un mindset que « Ah, j'ai pas besoin de ça, c'est pas important. » Donc c'est mon rôle aussi d'éduquer.
C'est sûr.
Puis c'est ça que je fais avec les... Je travaille avec des équipes à l'université. Donc okay. je donne des ateliers, puis les premiers ateliers, c'est plus éducation. Pourquoi on travaille le mindset? Pourquoi c'est important? Puis c'est sûr que les 30 athlètes dans l'atelier... va pas, they're not gonna all buy in.
Non, non, c'est sûr.
L'objectif, c'est au moins un autre. Mais c'est sûr que.
Il va rapporter les autres après. Puis...
Oui, ben, donc les athlètes dans une équipe, ils sont forcés d'être dans l'atelier. Donc c'est sûr qu'il y a toujours des athlètes qui veulent pas faire ça, c'est correct. Mais il y a toujours aussi des athlètes qui sont vraiment intéressants. Puis ces équipes-là sont chanceux qu'ils ont le support de moi parce que les athlètes ne paient pas, c'est l'université qui paye. Ouais, donc c'est ça, c'est très cool.
Il y a beaucoup de peur aussi là-dedans, j'imagine. Peur d'avoir à s'ouvrir, peur d'avoir à compter des affaires, peur d'avoir à...
Ben, mes sessions sont toujours confidentielles.
Ouais.
Donc, quand on commence à parler, ça...
Non, c'est sûr.
C'est correct, mais...
Des fois, les gens ont peur que c'est un signe de faiblesse.
Oui, je comprends. Okay.
D'aller voir quelqu'un, ouais. C'est mental. C'est sûr qu'au niveau performance, des fois, c'est peut-être un peu mieux vu qu'aller voir un psychologue parce que tu as l'impression que quand tu vois un psychologue, c'est parce que nécessairement, tu vas pas bien.
Oui, c'est ça.
Mais j'ai appris dans la dernière année que tu vas bien ou non. Moi, je pense que c'est important d'être encadré au niveau mental.
D'avoir un avis extérieur.
Puis ça aide si le coach a un mindset comme ça. Puis parce qu'après, les athlètes vont suivre cette mindset que, ah, OK, Camille est là pour me supporter, même si soit négatif ou positif, je suis là pour donner cette mental edge.
Oui.
Parce que oui, c'est vrai que les athlètes ont peur que c'est comme une faiblesse. Puis peut-être si je parle avec Camille, ben le coach va savoir, puis je vais être sur le banc. Peut-être.
Mais c'est vraiment de plus en plus démocratisé. Puis aujourd'hui, il y a tellement d'initiatives, Belle Cause pour la cause, des journées pour la santé mentale, on le met beaucoup de l'avant. Il y a beaucoup plus d'athlètes qui en parlent, qui en parlaient, qui sont vocales à propos de ça. T'sais, pour les gens qui nous écoutent puis qui se demandent qu'est-ce que tu fais dans le réel puis dans le concret, là, mettons quand tu commences à travailler avec un athlète, c'est quoi le day-to-day de ta job maintenant?
De ma job. OK. Ben, des courriels. Non? Non, dans une session individuelle, quand je rencontre quelqu'un pour la première fois, c'est juste to understand their story.
Ouais.
Le plus que je peux comprendre ton histoire puis comment tu penses, le plus que moi je peux t'aider. Dans le fond, tous les outils que j'enseigne, c'est la même.
Okay.
Même si tu es musicienne ou dans le business comme CEO, c'est toujours les mêmes outils, mais moi, il faut que je comprenne comment tu penses, c'est quoi tes perspectives. Donc, la première session, c'est juste comme on parle de peut-être tes challenges, tes objectifs, just to get to know you.
Ouais.
Après ça, ben on parle de... Souvent, si quelqu'un m'appelle, il y a un problème.
Oh.
Donc, c'est sûr qu'on on prend du temps de parler de ces choses-là. Je ne suis pas magicienne. Donc, c'est sûr que c'est it's a process. Ça prend... Moi, je dis à mes clients, ça prend au moins 3 mois pour changer tes habitudes. Puis si on parle de notre mindset puis nos habitudes de pensée, imagine tes 30 ans. Ça fait 30 ans que tu penses comme ça. C'est sûr que ça va prendre des années pour changer la façon que tu penses.
C'est sûr.
You know? So, c'est une discussion. C'est moi qui essaie de comprendre l'histoire, de poser des questions pour challenger des perspectives, de donner des outils comme... Moi, je suis vraiment dans la méditation puis pleine conscience comme outil pour comme train your brain pour être plus focus, pour laisser aller les distractions, pour être plus présent. Donc, tous les athlètes que je travaille avec ont une pratique de méditation. On parle de comment on change le self-talk.
Oui, la façon que tu te parles.
Oui, de négatif à positif, quand on a une course, quand on entraîne, comment tu peux pratiquer d'être plus gris, puis non noir ou blanc. Ouais.
Gérer les attentes, j'imagine.
Mm-hmm. Oui, exact, gérer les attentes. Ou même, like, let go of expectation, puis juste fixer des objectifs, puis have fun. How do you have fun, you know?
Ouais. Parce qu'on dirait des fois que certains athlètes l'oublient que la base, c'est d'avoir du plaisir. C'est sérieux. Mais c'est drôle, je regardais une vidéo de Michael Phelps il n'y a pas longtemps, puis il parlait de ça justement. Il dit, moi, ça a tout le temps été en haut du tableau à l'entraînement, avoir du fun. Faut que j'aie du fun. Si j'ai du fun, je vais être bon, mais faut que tu aies du fun sérieusement. Ça s'apprend ça aussi, parce que quand ça devient un job, puis tu le vois avec les athlètes, est-ce que le facteur fun peut s'en aller vite, puis t'as besoin d'un rappel pour faire hey, on est ici, c'est, on a du plaisir là.
100%. Puis même, tu sais, je le vois des fois avec certains de mes athlètes à moi, que, tu sais, j'entraîne pas, j'entraîne aucun athlète olympien, puis il y en a qui performent, tout le monde performe bien à leur manière, mais le point que je veux dire, c'est que des fois, mon rôle, c'est de leur rappeler qu'ils font ça pour le plaisir. Mm-hmm. Là. Ils se donnent tellement de pression, puis je peux comprendre en même temps parce qu'ils mettent beaucoup d'investissement de temps dans leur pratique, puis ça devient que ça les tient vraiment à cœur, mais au final, si t'es pas capable d'être heureux, ça fonctionnera pas, là.
Mm-hmm. Puis ça, like, it shows in the race. You have to have fun.
Oui, oh, il faut.
Donc, c'est, la plupart de mes discussions avec les athlètes élites, c'est quoi, what's your why again? C'est quoi, quoi le gros objectif encore? Parce que, oui, t'es pas payé pour ça. Même si t'es payé, like, you have to have fun. So, oui, il y a des fois qu'il faut que je, like, I have to bring them back. Puis, oui, c'est des conversations difficiles. Mais, like, they're needed.
À quel point ça peut aller loin dans le... Tu sais, souvent, là, puis je me rappelle, là, j'ai eu des discussions avec justement des personnes qui font ton travail, qui travaillent avec des athlètes, que des fois, on peut retourner à l'enfance, à la façon dont ils ont été élevés, au background, au type de parents qu'ils ont eu. Mm-hmm. Des fois, ça va loin, pas juste t'as attaché tes souliers, puis ça a commencé
c'est
là.
C'est sûr, ben oui, avec tes parents, la façon que t'as à grandir. C'est sûr que c'est important pour moi d'apprendre cette histoire, mais je suis pas psychologue, puis je suis pas équipée de discuter ces détails avec eux. Mais c'est vraiment
ça
important.
Fait partie,
ça fait partie de nos discussions, mais pas, like, it doesn't take all of the discussion. Mais c'est important de savoir de où ça vient, parce que ça quand on when we understand that, just that itself can help.
Ah, c'est sûr.
Puis je travaille avec des athlètes, des musiciens qui voient un psychologue ou un thérapeute et moi, puis dit que on travaille bien ensemble.
Avec des musiciens aussi?
Oui.
Qu'est-ce qui est plus difficile à traiter, des athlètes ou des musiciens?
Ben, je vais dire des musiciens juste à cause que moi, je suis pas musicienne.
Okay.
Donc, je connecte plus avec les athlètes, mais c'est quand même les mêmes choses. Avec les musiciens, c'est vraiment autour de l'anxiété de performance.
Oui.
Puis, dans le fond, c'est leur d'être musicien, puis payer pour, c'est vraiment dur.
C'est très dur.
Puis, en plus, c'est plus tabou. Toutes ces choses, mindset, avec la musique,
oui, c'est sûr.
C'est vrai qu'on n'en entend pas beaucoup parler au niveau des artistes, des musiciens.
Il y a beaucoup d'inquiétudes.
L'aspect mental.
C'est dur de gagner sa vie comme athlète, mais c'est dur de gagner
encore
sa vie comme musicien
presque,
également.
Ouais.
Je pense que c'est plus dur. Puis, je veux pas lancer le débat aujourd'hui. Je pense que c'est plus dur comme athlète.
Ah, je sais pas. J'allais dire musicien. Mais ça doit dépendre aussi du type de sport que tu fais.
Ben, c'est ça.
Ouais. Fait que ça doit être très difficile dans les deux cas, là.
Ouais. Mais c'est intéressant, c'est toujours intéressant pour moi pour juste apprendre de les musiciens, puis comment le cerveau fonctionne. Mais dans le fond, comme j'ai dit avant, c'est toujours les mêmes mental skills. So.
Qu'est-ce qui t'intéresse des coureurs, mettons, de cette discipline-là, de la course, puis comment tu travailles avec des coureurs?
Qu'est-ce qui m'intéresse? Ben, qu'est-ce qui m'intéresse, c'est je comprends pas comment quelqu'un peut courir plus que 2 heures. Comme t'es dans ta tête pour des heures.
Ouais.
Donc, j'aide quelques coureurs, mais les athlètes que j'aide le plus, c'est plus les sports en équipe, comme soccer, hockey. Mais parce que moi, je cours aussi, je peux connecter avec les autres coureurs.
Quand c'est sport individuel, sport d'équipe, c'est deux affaires différentes. Ouais. Ça tourne vite là, dans le sport individuel. Ouais.
Puis je trouve que les quand t'es tout seul, c'est plus facile de peut-être de to be hard on yourself and to get stuck in your head.
Oui, ouais, parce que t'es la seule personne à blâmer si ça va mm-hmm. pas bien. Puis aussi, t'sais ça, tu cours longtemps aussi. Ben ça dépend après quelle distance là, mais ouais. tu peux courir longtemps puis dire ah j'ai mal fait ça. Puis un truc qu'on avait travaillé ensemble que j'ai gardé puis qui m'a beaucoup aidé, c'était de séparer ma course en segments puis me dire les pensées qui risquent d'arriver pendant certains segments de la course. Prévoir. Puis d'avoir une pensée plus positive, puis comment je pourrais changer, parce que c'est vrai que une fois que tu tombes dans le négatif, des fois c'est dur de s'en sortir.
C'est sûr.
Mm-hmm. Fait que de toujours rappeler ou de aussi de savoir que des fois il y a des moments qui vont être difficiles, mais que ça peut toujours reprendre puis être plus positif, ouais. autant comment tu te sens physiquement que mentalement.
Ça apprend à se connaître beaucoup, tu sais. Puis je disais un truc récemment sur genre, l'effet de la dopamine sur le cerveau dans le sport, puis apprendre à gérer ça. Puis il y a des gens qui gèrent mal l'excitation dans le sport, de la performance, puis que là, ils en font une bonne, puis là, ils sont convaincus que c'est réglé pour le restant de leur jour. Il doit y avoir ça aussi dans ton travail de tempérer le comment tu reçois tes résultats ou tes bons résultats, tu sais, quand tu commences à être vraiment bon dans quelque chose.
Oui, ben, dans le fond, oui, c'est gérer les expectations, gérer l'énergie. Moi, je pense que c'est important que, oui, si tu as réussi un objectif, c'est bon, mais it's not yourself, it's not your worth.
Ouais.
Donc, c'est important de, oui, de célébrer ce succès, mais de, like, your worth should not be on it. Whether it's a fail or success, that's when you get in trouble.
Oh, ouais.
Right? Puis, une discussion que je fais avec beaucoup des athlètes, c'est qu'est-ce que tu fais dehors du sport aussi? Parce que si c'est simplement ton identité, puis là tu fais whether you're doing good or bad, that's it's gonna get hard because I don't know how to explain that. But
ben, oh oui. on comprend. Puis en même temps, tu sais, je le vois beaucoup avec mes athlètes qui mettent beaucoup d'importance sur la journée J, le résultat que ça va donner pour définir toute leur préparation puis comment ça s'est passé. Mais au final, c'est une journée. Yeah. Il pourrait faire très chaud, il pourrait avoir beaucoup de vent, il pourrait, ouais. tu sais. Tu pourrais avoir une grosse mauvaise nouvelle la veille, puis ouais. ça va t'affecter. Fait que c'est important de pas juste mettre, comme tu dis, le résultat.
Puis ça a l'air que c'est parce que on we care what other people think about us. C'est ego.
Ben oui, c'est normal.
Yeah. Puis c'est normal, mais si c'est toujours ça, là, ça va être facile de que c'est pas le fun. Si on fait des choses pour les autres personnes, on va arriver à un point que ça va être pas le fun. Puis donc, c'est vraiment important de trouver ton pourquoi, puis ouais. il faut que ça soit important pour toi. Puis c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup d'athlètes que je parle avec, puis c'est normal qu'on we care what other people think,
ben oui, ben
but
oui.
it can't just, and now with Strava, social media, Instagram.
On a parlé de ça, on a eu un épisode là-dessus toujours, sur la pression que certaines personnes se mettent par rapport aux résultats des autres, puis les résultats de course, puis lui a fait tant, moi, faut que je fasse tant, puis se comparer toujours. Ce qui est un peu naturel chez lui-même,
oui,
je
oui,
pense,
oui.
mais ça se contrôle.
Mm-hmm.
Puis, excuse-moi, vas-y.
Je vais dire que c'est to compare to normal, puis si on compare, puis ça nous donne un boost,
ouais.
c'est correct, mais si ça vient avec des pensées négatives, là, c'est une discussion. Mm-hmm. Mais c'est sûr qu'on suive des personnes sur Instagram, sur Strava, ah oui. puis ça aide, ça nous motive, ça c'est correct. Mais donc it's a skill to know what's what. You know?
Oui, puis de différencier. Est-ce que tu as déjà travaillé avec des athlètes qui ont coupé les réseaux sociaux pendant un certain moment, puis que tu as vu une différence sur leur santé mentale?
Oui, je travaille en ce moment avec quelqu'un qui coureur qui coupe son Strava
okay.
Quand elle commence à entraîner parce qu'elle est vraiment vite, puis quand elle pose ses courses, elle a toujours des personnes qui mettent des commentaires, puis comme des bons commentaires. Mais ça met de la pression pour elle qu'elle n'a pas besoin de
pression.
De
le refaire, ah oui?
Oui. Puis, ah, okay. Like, why don't you do this or this? You're so good, you're so fast. Puis là, ça met de pression, puis c'est sûr qu'elle met de pression ouais. sur elle quand même. Puis moi, honnêtement, j'ai enlevé mon Instagram, ça fait 4 jours. Je fais un
expériment.
Yeah, just to see, parce que it's just noise. Puis c'est sûr que je poste parce que, like, we all like to be liked.
Ouais.
Puis je suis ambassadeur de Brooks. Puis
ouais.
Donc, il faut que je poste, mais c'est sûr que c'est normal. Puis les programmes sont créés pour... like Facebook, Instagram is made for us to like...
And, mais non, c'est sûr, c'est normal.
So, mais pour répondre à ton question, oui, je travaille avec des athlètes qui laissent leur téléphone, laissent leur réseau social pour mieux concentrer quand c'est le temps de concentrer.
Ouais. Je disais, ton site web, j'adore le jeu de mots, myinnerpace.com, mm-hmm. vous irez voir ça, tout est là-dessus. Il y a un mot qui revient souvent sur ton site, qui revient beaucoup dans, quand on parle de performance mentale, puis c'est balance dans la vie de tous les jours. Est-ce qu'on le fait bien aujourd'hui, globalement, bien balancé?
Oh, I don't even like this word balance. C'est pour ça, inner pace, ça veut dire de trouver ton rhythm, trouver ton pace. Parce que même si on trouve un équilibre, un balance, quelque chose va arriver. Puis là, that's when we get into trouble. So, c'est comme, est-ce que, donc, I think we're doing really bad job, everyone. On essaie de trouver un équilibre, mais c'est même pas de trouver un équilibre, c'est, il y a, dans la vie, il y a des saisons, puis dans les saisons, il faut qu'on ajuste. Puis, spécifiquement avec les athlètes élites qui sont perfectionnistes, qui sont noirs ou blancs, il faut que ça soit la même chose pendant toute l'année. Mais non, c'est pas ça. Il faut que tu trouves qu'est-ce qui fonctionne pour toi cette semaine, la semaine prochaine. Peut-être la semaine prochaine, ton entraînement va être moins bon à cause que t'es fatigué, parce que, à cause que ça est arrivé, whatever, mais...
Il faut que tu te donnes le droit de dire, hey, je suis fatigué cette semaine.
Exact. Puis il faut que t'adaptes, puis il faut que donner le droit de dire je suis fatigué, puis ne de sentir pas coupable. Puis de voir, en like, in big picture, it's actually good for you to adjust and back up, so... J'ai oublié la question, là, mais...
Non, mais l'importance du mot balance, puis c'est niaiseux.
Ah oui, balance,
t'sais.
Oui.
Puis chez les hommes et les femmes, moi, je le vois, tu sais, on a deux jeunes enfants à la maison, Milan, 4 ans, puis Clara, qui va avoir 2 ans. Je vois des fois la pression que ma blonde se met d'être une supermom, de travailler, de s'entraîner, d'être en forme, de ci, de ça, puis elle me nomme ses affaires, puis je fais, mais tu fais de ton mieux. On fait tout de notre mieux, puis on dirait que... Puis je sais pas si... Il doit y avoir une différence dans la façon de le traiter. Tu sais, t'es nouvellement maman, tu l'as peut-être vécu personnellement aussi, ce combat-là. Non, mais tu sais, de faire, j'en fais-tu assez partout, genre, parce que les tâles sont longues à remplir, là.
C'est difficile, parce que moi aussi, je suis dure sur moi-même.
Ben oui.
Puis, I'm connecting with your wife. Ouais. I want to be good at everything, but so, it's not sustainable. You burn out, you get hurt. Donc, moi, je suis dans une phase dans ma vie que... Il faut que je priorise une ou deux choses, pas 10. Puis je peux pas être 100% dans toutes les choses. Puis c'est sûr que pour les 35 ans de ma vie, j'étais toujours comme ça. Mais that leads to burnout, that leads to injury. Puis en ce moment, comme même avant, j'ai essayé de faire la course et l'haltérophilie. En ce moment, je pratique de faire juste la course. Like, just do that. C'est correct. Why are you doing 10 million things? Who are you trying to impress? You know? So, moi aussi, j'essaie d'être plus gris. Pour me donner mon 100% à ma fille, à ma famille, à moi, il faut que je priorise moins de choses.
C'est sûr.
Même avec ma travail, si je travaille avec plusieurs équipes, comme 10 équipes, c'est sûr que c'est trop. Puis je peux pas donner mon 100%. Puis des fois, il faut juste que tu vis l'expérience pour avoir ton moment aha, pour le changer. Mais mon rôle comme consultante, c'est de, like I said, to challenge those thoughts. And because I live it, I can challenge those thoughts and feel for you. Puis de développer un plan. Puis le plan va être inconfortable.
Puis de ne pas se sentir mal de faire certaines affaires. Puis tu sais, moi, ce que j'ai observé à travers, mettons, les dernières années, c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes mamans en forme qui, mettons, il y a 10-12 ans, tombent enceintes, elles ont le bébé, puis là, elles arrêtent. Là, c'est un an à la maison, à faire à manger. Puis alors qu'aujourd'hui, on retourne au gym plus vite, on s'occupe de nous autres plus vite. Puis souvent, je le dis à ma blonde, t'as pas à te sentir mal de vouloir aller au gym, puis d'avoir besoin d'aller au gym, puis moi je vais être là, je vais rester avec les kids, je vais en faire le plus possible, puis j'essaie d'inculquer ça, puis de prouver à mes enfants que c'est important aussi, mais moi je veux qu'elles sentent que pour moi c'est important qu'elles fassent, hey là je prends une heure, je m'en vais au gym. je m'en vais au gym. Il faut, elle a besoin de ça, puis je le sens. Puis on dirait que c'est comme plus commun que ça. Tu sais, avant, c'était, c'est un an, puis c'est un congé de maternité.
Mais je pense parce qu'on compare plus avec Instagram, puis tout ça. On voit, moi aussi, j'ai vu des mamans qui, après un césarien, elle a avec un six-pack, puis là, je me dis, ben je peux faire ça, il faut que je fasse ça. Puis finally, I blocked her, because I'm like, this is not good for me.
Ça arrivera pas.
Mais c'est sûr que c'est... La plupart de le temps, c'est parce qu'on compare avec les autres. Puis on ne donne pas le temps de réfléchir, ben, qu'est-ce que moi, what am I feeling and what do I need?
Oui, oui, totalement.
Puis encore, ça, c'est mon rôle, c'est de juste to redirect your focus on you.
Ouais.
And stop caring. This is the biggest thing, to stop caring what other people think. Parce qu'il va y avoir toujours quelqu'un qui va te juger.
Ah, ça, c'est officiel.
Quand on comprend ça, puis on est capable de laisser aller ça, c'est so freeing.
Ah, c'est sûr.
Un truc que j'avais beaucoup aimé de Camille aussi, c'est d'apprendre à dire non. Puis
oui.
Mes week-ends étaient tout le temps jam-packed de comme plein d'activités. Puis elle m'a dit, OK, deux activités maximum par week-end, le reste... T'es occupé, puis ça marche pas, puis tu dis non. Puis depuis, j'ai appliqué ça. Déjà, moi, ça me permettait de me sentir mieux, puis c'est aussi d'accepter que je disais non, parce qu'au début, on dirait que je me sentais mal.
Que tu peux être à la maison en train de rien faire, puis c'est correct.
Exactement. Fait que je pense que c'est aussi d'apprendre à s'écouter, justement, puis à savoir ce qui nous fait
plaisir. Il y a beaucoup ce... Puis tu sais, on parlait d'Instagram tantôt, là, ce désir-là de faire « Hey, moi, je manque rien. J'étais de toutes les activités, de tous les événements, j'ai fait toutes les affaires, tout comme on m'a proposé, mais j'ai vu mes amis, j'ai... » Maintenant, tu as le droit d'être à la maison pour faire « Hey, ça me tente pas, sais-tu?
Mm-hmm.
Ça me tente pas. » Tu travailles avec beaucoup d'équipes sportives, tu disais.
Mm-hmm.
Cette génération-là de jeunes athlètes, là, les 16-20, 16-22, là, ou à peu près, on en parle en mal quand on arrive dans le domaine de l'emploi, que on a des problèmes, c'est des paresseux, c'est des... Toi, tu es avec eux autres au quotidien. C'est quoi leur challenge? C'est quoi leur défi à cette tranche d'âge-là, les athlètes, les jeunes que tu traites là, de 16-20, 21-22?
Je pense qu'il y a moins de... like fire.
Il y a moins fire, ouais.
Puis je pense que like how can I say this? It feels like they let the environment and everything out of their control get to them.
Okay.
That makes sense. C'est sûr que l'environnement.
Les affaires qu'ils contrôlent pas, ça les atteint directement.
Ouais. Puis c'est ça, ces habiletés là, tu t'apprends pas à l'école. Mais je vois plus avec les jeunes que l'environnement leur impacte beaucoup. Puis ils n'ont pas les outils de reconcentrer sur eux. Puis, like, they let it affect them too much. And then it affects their performance and their confidence.
Ils sont beaucoup dans le paraître ou dans d'avoir l'air en contrôle?
Oui, exact. Ils sentent, they don't feel in control. Là, on généralise.
Oui, on généralise, oui.
Mais je pense que la grosse différence entre les jeunes puis les adultes, c'est que l'environnement l'impacte plus les jeunes.
Ouais.
Puis ils ne savent pas comment le gérer.
Ouais.
Ouais.
C'est intéressant cette discussion-là parce que tu sais, on dirait que ça revient tout le temps sur le tapis quand on parle des jeunes athlètes, quand on parle des jeunes sur le marché du travail. Ils ont de la pression aussi en même temps, c'est d'être bon à l'école, c'était dans un sport.
Ça.
Parce que c'est pas d'une adolescence normale. Là. Si tu fais du sport d'élite, tu joues au football pour McGill ou peu importe, t'as pas une adolescence normale. C'est pas normal.
Je travaille avec les athlètes en sport-études, ça c'est pas normal. C'est sûr que ma fille va pas au sport-études.
Ah ouais?
Pour quelle raison? C'est trop intense pour des jeunes. Puis là, je travaille plus en sport-études, mais...
Mais la charge d'entraînement?
La charge de... travail, okay. Période. Ils sont à l'école de le matin jusqu'à midi. Là, à midi, à 3h, ils font leur... la moitié de la journée, c'est l'école. L'autre moitié, c'est leur sport,
athlètes,
mais plus intense. Donc, tu fais... Tu as plus d'heures pour ton sport. C'est pour ça que c'est sport-études. Mais ça veut dire que toutes les autres choses, like, les examens, toutes les autres choses à propos de l'école, c'est intense. Donc, tu n'as pas de temps libre. Comme enfant, c'est important d'avoir le temps libre. Donc là, il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de pression pour les athlètes-là. Puis souvent, quand je parle avec les athlètes qui sont plus jeunes dans les sports-études, they're not having fun, so they want to quit. This is sad. This is what we don't want. We don't want kids to stop sport.
Puis est-ce qu'à la base, ce sont des sports qu'ils aimaient quand ils ont commencé?
Oui.
C'est ça qui arrive.
Est-ce que ça alimente, dans le fond, la surperformance? autant à l'école que dans le sport, parce que c'est condensé dans une période de temps, puis ils doivent arriver à faire l'école d'un élève normal, mais en moins de temps, puis en même temps s'entraîner pour leur sport.
Pour un adulte, c'est difficile, imagine, pour un enfant.
Ouais.
Ouais.
Ah non, c'est officiel. C'est officiel, puis tu sais, il y a beaucoup de... T'envoies tes enfants en sport-études en disant... Mon fils a besoin, tu sais, moi, je le vois, là, Milan a 4 ans, c'est une tornade. Là. J'ai une tornade sur le bras, puis à cause de... Lui, c'est hockey, soccer, le sport, ça arrête pas. Puis je me dis, je vois pas comment ce petit gars-là à l'école va être capable d'être assis 8 heures par jour sur un banc d'école. Je le vois déjà arriver, qu'il va avoir besoin de bouger, puis je vois déjà les sports qu'il aime. Fait que tu sais, t'as tout ça en grandissant, des occuper, puis de les faire bouger. T'as aussi en tête de faire, ben, je veux qu'ils fassent du sport parce que je veux qu'ils soient en santé, je veux qu'ils soient bien. Mais c'est vrai que ça vient avec de la pression, puis avec, rapidement, si tes enfants commencent à avoir du talent dans certains sports, là, il y a des parents qui virent fous, il y a des coachs qui virent fous, il y a des écoles qui virent folles avec ça. Il y a beaucoup de pression dans le sport qui commence très, très jeune.
Donc, les parents, les coachs, même comme like a teammate, il faut qu'on fasse attention à comment on parle avec, même si t'es jeune ou non. Parce que spécifiquement avec les jeunes, ça peut impacter leur confiance plus.
Ouais.
Donc, c'est vraiment clair quand je travaille avec un athlète qui a des coachs, des parents qui n'est pas supportif parce que leur confiance est vraiment bas.
Ah ouais, tu le vois rapidement.
Parce que l'environnement, ton système de support donne vraiment un gros impact sur ton entraînement, sur ta confiance.
Sûr. Tu sens que tu as des gens derrière de toi, c'est normal.
Puis mon rôle aussi, c'est d'enseigner comment est-ce que, like, the coach, the parent is out of your control, but you still need to learn to build your own confidence. This is our own responsibility. But as a kid, that's hard.
C'est dur.
So, c'est sûr que j'ai plus succès avec les adultes, mais au niveau de confiance puis tout ça, parce que quand t'es jeune, t'as besoin, tout le monde a besoin d'un système de sport.
Ouais.
Mais quand t'es jeune, c'est plus important. Puis des fois, je questionne l'athlète, je dis, est-ce que c'est possible de... Peut-être il faut que tu changes d'équipe, parce que le coach, ça semble que ça aide pas avec...
Ça se peut les mismatchs.
Mm-hmm.
Ah oui, ça se peut vraiment, tu fonctionnes pas. C'est drôle, j'ai joué au golf cette semaine avec une athlète NCAA Division 2 qui change d'université juste à cause de la coach.
Mm-hmm.
Puis elle me l'a dit, elle dit, j'ai mes 3 premières années à l'université où elle était, ça allait super bien, elle a changé dans l'optique de jouer un peu plus, parce que tu sais, varsity, c'est un peu compliqué NCAA des fois.
Mm-hmm.
Puis elle arrive dans une équipe où ça va bien, mais ça fonctionne pas avec la coach. Puis elle dit, elle, c'est un frein à mon développement. Puis là, elle change d'université juste pour ça. Puis elle dit, j'ai failli arrêter de jouer au golf. Puis là, j'étais comme, aïe, puis c'est un des plus beaux espoirs de golf qu'on a ici, qui est aux États-Unis, NCAA. Puis là, tu fais, t'as failli arrêter. Je dis, non, tu comprends pas, là.
C'est important, la relation coach-athlète, là. C'est important qu'elle soit saine aussi, là.
Ouais.
Parce que sinon, comme tu dis, ça peut tout chambouler en très peu de temps, là.
Ouais, absolument. Puis tu sais, c'est dans le développement, c'est qu'après ça, tu gardes pas un bon souvenir de ces années-là, parce que c'est beaucoup d'années dans une vie. Tu sais, quand vous vous mettez à suivre des athlètes dans vos domaines respectifs, vous pouvez les suivre pendant longtemps, puis t'es athlète pendant longtemps. Tu sais, dans le dernier épisode, on a reçu Kim Clavel. Kim a 33 ans, elle est dans la boxe depuis plus d'une quinzaine d'années. Quand elle va prendre sa retraite, ça va être 20-25 ans de sa vie, là. La boxe, c'est énorme, là. C'est énorme le temps que tu passes là-dedans. Faut que t'aies été heureux, là.
Puis c'est pas facile de changer de coach non plus.
Non.
J'ai changé de coach plusieurs fois aussi, puis tu demandes how are people gonna think? What is the coach gonna think? Mais big picture, what's important again is you. Puis on est trop peur de we're too afraid to do what's best for us because we care what other people think.
Le marathon s'en vient dans les prochaines semaines, à la fin du mois de septembre. Les gens qui écoutent ça, qui se préparent pour une épreuve comme celle-là, sont peut-être devant leur première grande épreuve, leur premier grand demi, leur premier full. T'as quoi à leur dire pour les aider, les quick tips mentales pour un événement comme celui-là?
How much time do I have now? Je pense que le plus important, c'est de commencer en confiance. Donc, ça commence avec ton entraînement. D'utiliser toutes les opportunités de maintenant jusqu'à la course de entraîner ton mindset. Si c'est... If it's raining outside, go train in the rain. Like, entraîne ton mindset pour être résiliente. Puis, après tes entraînements, trouve des choses que tu as bien faites pour établir cette confiance que tu as besoin pour la course. Parce que si tu es confiante, c'est sûr que tu vas avoir le fun.
Ouais.
trust the process. Là, tu as fait tout ton travail. Quand tu es sur la ligne de départ, il n'y a rien d'autre que tu peux faire. So, c'est normal qu'on stresse. Puis le stress est normal, mais il faut qu'on réalise qu'on est stressé. Puis, like, trust yourself, have confidence in your plan. Puis, like, have fun. I don't know if that makes sense, but...
Oui, 100%.
Ouais.
Puis, un truc que moi, j'avais eu, c'était de, mettons, 2 ou 3 entraînements que j'ai vraiment bien réussi, de les noter, puis de les relire le soir, la veille, ou le matin même.
Comment tu notes un entraînement? Je suis curieux, mettons.
Ben, mettons, juste la date, puis c'était quoi l'entraînement, puis dire que j'étais satisfaite, que j'avais bien réussi, j'avais atteint les pèses, peu importe comment je me sentais. Puis ça, c'est un entraînement que je me dis, hey, ça, j'ai bien réussi, ça me met en confiance.
Un genre de journal de bord.
Oui. Hein. Des fois, on l'oublie parce que, mettons, c'est un mois avant la course. Fait que, puis, tu sais, mettons, une semaine avant, des fois, en taper, ben, tu te sens un peu moins bien, t'as un entraînement qui va moins bien. Puis là, hop, hey, je suis pas prêt, là, ça marche pas. Fait que de l'avoir, cette liste d'entraînement-là que t'as fait, que t'as accompli, puis de le relire la veille ou le matin même, ça, moi, je trouve que ça aide beaucoup à
ça. Ça, c'est un bon point. Puis voir ton progrès, parce que je pense que la dernière semaine, t'es juste focus sur les entraînements, puis juste de le faire, les entraînements.
Ouais.
Mais c'est bien, de, au niveau de confiance, de retrouver ses wins.
Oui.
Pour, encore comme j'ai dit avant, c'est notre responsabilité pour gagner notre confiance.
Ouais.
Puis c'est sûr que d'écrire des choses comme ça pour voir notre progression, ça aide avec tout ça. Donc.
Puis vivre l'événement aussi, tu sais. Soak it in quand ça arrive, là, quand tu passes le fil d'arrivée puis c'est fait. Prends ton temps, on n'est pas pressé. Là. Va chercher ta médaille, va chercher ton petit verre d'eau.
T'es pas payé pour ça.
Non, mais c'est ça. Passe du temps avec les gens qui sont venus pour toi. T'sais, profites-en de cet événement-là. Puis fais pas on to the next tout de suite. Donne-toi du temps pour faire hey, je l'ai fait. C'est hot.
Mais même sur le parcours, là, surtout à Montréal, il y a plein de monde qui sort dehors. Il y a des enfants qui veulent que tu leur tapes dans la main.
Ouais.
Moi, je le fais. Genre, des fois, là, je le fais pas à chaque course, mais des fois, quand que je suis dans un bon mood, puis tout, puis ça, je devrais le faire plus souvent, va taper dans la main des jeunes enfants. Eux, ils vont être heureux. Toi, ça te rend heureux juste ça de le faire. Il y a du monde qui ont des pancartes qui disent « tap here pour de l'énergie, mettons », puis tu sais, de juste profiter de l'ambiance. Les gens, il y en a qui c'est même pas des coureurs, ils vont sortir dehors sur le bord de la rue, puis ils vont aller t'encourager. Juste de réaliser tout ça, des fois, ça donne un boost de motivation, puis de
vraiment.
Pour terminer la course.
Hein. Camille, merci d'être passée.
Merci à vous.
Vraiment gentil. Si on veut faire appel à tes services, comment on fait?
Sur mon site web, myinnerpace.com, puis tu peux me envoyer un courriel.
Tout est là, c'est super intéressant comme discussion. Merci beaucoup, merci Lisa.
Merci.
On va se retrouver à la fin du mois de septembre, évidemment, pour le Marathon bénévole de Montréal. Il reste un épisode et c'est un autre des ambassadeurs, Charles, qui va venir faire son tour pour le dernier épisode, un Olympien, on va le dire.
Rien de moins.
Rien de moins, mais c'est important. Mais j'ai très hâte de parler de ça avec lui, de course à ce niveau-là, justement. Fait que merci à ça. Merci à Pag, le magicien, à la réalisation. On va se retrouver la semaine prochaine pour un autre, ben, en fait, dans les prochains jours, pour un autre épisode du podcast Pourquoi tu cours du Marathon bénévole de Montréal. Salut tout le monde.